La quête de la vie bonne.
La quête de la vie bonne.
Une recherche en Cévennes sur le Cosmégen et sur le Mont Lozère.
Mad. Une collecte de récits de vie.
Pour comprendre ce qui contribue un peu,
beaucoup,
à la folie.
À votre quête de vie bonne.
Du 21 au 24 mai,
à Florac et aux alentours,
Mad. Des rencontres,
des ateliers,
des discussions.
Et le mercredi à partir de 14h,
un plateau exceptionnel.
Sur Radio Bartas, 107 FM.
Nous sommes toujours sur Radio Bartas, 107 FM, en présence aujourd'hui de trois nouvelles personnes. Magali Saucé, qui est anthropologue, chercheuse indépendante et affiliée au Centre National des Arts et Métiers, qui a principalement travaillé au Burkina Faso.
Bonjour Magali.
Bonjour.
Roxane Sansilvetri, qui est socio-écologue à l'AgroParisTech. Bonjour Roxane.
Bonjour.
Et Genauto Carvalho da França Filho, qui est professeur à l'Université fédérale de Bahia au Brésil, chercheur en économie solidaire. Bonjour Genauto.
Bonjour.
Dans cette deuxième partie de l'émission, donc on est toujours là pour parler de la recherche à la quête de la vie bonne en Cévennes, Mont Lozère et Cosmégen. Et on va maintenant discuter un peu de la méthodologie du projet et de cette recherche. Donc cette recherche, elle est marquée par une dimension participative, notamment dans le fait d'intégrer des Lozariens et Lozariennes à l'équipe et de faire du lien avec les institutions locales. Mais c'est surtout ces trois jours de restitution qui vont nous intéresser et on va s'intéresser spécialement à leur dimension participative. Peut-être on peut commencer par Roxane. Pourquoi c'est intéressant de restituer une recherche déjà et de faire participer les habitants et habitantes du coin?
Oui. Alors, dans la démarche de recherche participative, il peut y avoir plusieurs degrés. Il y a ce qu'on appelle les sciences ouvertes, donc de faire participer les citoyens pour la récolte de données. Et après, on peut aller de plus en plus loin. Nous, là, on avait vraiment la volonté d'avoir une recherche participative en termes de vraiment de co-construction, de co-réflexion. Et donc, c'est pas simplement aller sur le terrain, récolter les histoires de vie, comme l'ont déjà dit Blandine, Isabelle et 24. Ça fait partie du processus, mais c'est aussi pouvoir interroger nos propres analyses et nos propres questions avec les citoyens. Donc là, l'idée de cette restitution, elle est hyper importante pour nous parce que nous, on formule des questions un petit peu hors sol, en fait, dans nos laboratoires. Alors, comme elles l'ont dit, on a aussi des moments où on se retrouve entre nous et on peut croiser les regards. Donc déjà, c'est une première étape de co-construction. Mais là, il y a vraiment l'idée de pouvoir aller restituer, présenter les résultats et un peu mettre nos questions, nos analyses, mettre un peu à nu vis-à-vis des citoyens et pouvoir venir avoir leur regard, en fait, sur ces premières analyses et avoir un peu un processus qu'on dirait itératif. C'est-à-dire se dire, peut-être que la question, on est tombé un peu à côté ou alors on ne l'a pas exactement bien formulée et pouvoir venir soit ajouter de nouvelles questions, soit même reformuler les questions de départ. Et nous, ça va nous permettre d'ouvrir des nouvelles analyses, des nouveaux terrains, aussi faire des rencontres, avoir des récits de vie qu'on n'aurait pas eu avant, et donc d'avoir une recherche participative vraiment au sens de co-construction, co-réflexion. Et ça nous permet aussi d'avoir ce qu'on appelle une recherche ancrée dans le territoire, et du coup d'avoir aussi les questions qu'on se pose en tant que citoyen. Les questions qu'on a de recherche, c'est-à-dire elles ne sont pas propres simplement aux scientifiques, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle une science citoyenne ou une recherche citoyenne.
Toi, Roxane, tu es éco-sociologue, c'est ça ?
Socio-écologue, oui.
Socio-écologue, c'est l'inverse. Et tu as pas mal d'outils, tu as plutôt l'habitude de faire des recherches un peu de cet ordre-là. C'est une question.
Alors, je pense que de toute l'équipe, c'est plutôt tout le reste de l'équipe qui a beaucoup plus l'habitude d'utiliser ce type d'outil qui va être l'enquête de terrain, les recherches ethnographiques, l'observation participative, etc. En l'occurrence, il se trouve que moi, je travaille que comme ça aujourd'hui. Mais moi, je suis de formation jusqu'à mon master écologue. Donc, je viens plutôt des sciences dures. Et c'est vraiment pendant ma thèse que j'ai fait de l'interdisciplinarité, parce que j'ai rencontré des chercheurs en sociologie, en anthropologie, en psychologie, en gestion, et j'ai adoré. Je me suis dit, j'aurais dû faire ça. Non, mais du coup, je me suis dit, il y a vraiment un intérêt, en fait, à ce que disait Blandine et Isabelle dans la construction du projet, d'avoir aussi ce regard croisé en termes d'approche de recherche, en termes de regard international, mais aussi disciplinaire. C'est de pouvoir apporter les méthodologies, les analyses des questionnements des sciences humaines et sociales dans les sciences du vivant. Et moi aussi, je peux permettre de faire le passage, c'est sûr, d'apporter un regard des sciences du vivant, de la complexité du vivant, qu'on a souvent tendance à simplifier par des usages et des ressources, et de pouvoir apporter ce regard-là et contribuer à l'équipe sciences humaines et sociales, qui est plutôt sciences humaines et sociales, avec ce regard sciences du vivant.
C'est pour ça que je t'ai posé la question. du coup, tu as un peu commencé à répondre à cette question, mais... En quoi ça peut donner une recherche plus juste et plus pertinente ? Peut-être Magali, de ton point de vue d'anthropologue, tu pourrais ajouter un peu des éléments à cette question.
Oui, je voulais compléter effectivement ce que tu dis, Roxane. Je trouve que c'est une expérience en fait, qu'on n'a pas l'occasion de vivre souvent dans sa vie de chercheur. Déjà, je trouve que c'est un point hyper important dans un contexte où on a quand même, je pense, une tendance à justement chercher à avoir des recherches très mainstream qui vont toujours dans un sens un peu de rationalité. Voilà. Là, moi, je trouve que c'est une opportunité assez forte de pouvoir aussi apprendre des disciplines en action, c'est-à-dire que en fait, on se connaissait pas tous avant d'engager ce terrain. Donc pour moi, il y a aussi presque l'ethnographie de l'ethnographie, c'est-à-dire que Isabelle, Blandine nous ont associés à ce projet et je pense que tout le monde a répondu avec un enthousiasme grand dès le début. Et puis avec un titre comme celui de la Vibonne, ça aurait été vraiment compliqué de refuser de s'y engager. Donc ça, c'est au-delà voilà, de tout le travail déjà qu'on a pu élaborer les unes avec les autres. Voilà, moi particulièrement, voilà, Isabelle, je travaille avec elle depuis très longtemps, mais je n'avais jamais réalisé de terrain d'enquête avec elle. Qui plus est, sur son lieu de naissance, son territoire de vie, justement. Et donc voilà, on a quitté nos territoires de notre laboratoire de recherche qu'on a en commun pour aller justement rencontrer voilà, cet espace dans lequel elle a grandi avec, moi je découvre en fait aussi une collègue chercheuse autrement et ça je trouve que c'est aussi extrêmement important dans la recherche. On a toujours l'impression, tu disais voilà, qu'on est un peu hors sol, mais la recherche elle se fait aussi avec des individus et entre nous on a, je trouve aussi, eu cette chance de pouvoir apprendre à se connaître, à comprendre j'allais dire presque nos styles, au-delà de nos ancrages disciplinaires, on voit bien qu'ils, ce qu'on appelle nous un peu dans notre jargon, partagent une forme de même épistémologie. En fait, on a des lectures communes, on a des bibliothèques partagées. Mais au-delà de ça, je trouve que ça a été aussi un vrai travail d'apprendre à se connaître les uns les autres. Et c'est peut-être aussi ça, une partie de notre quête de la vie bonne, c'est aussi être en collectif. Et c'est, je pense que c'est une condition absolument centrale pour que le projet fonctionne, c'est que nous tous et toutes disent que nous sommes, et puis on fait de l'ethnographie, c'est-à-dire qu'on mange, on loge au même endroit, on prend la voiture tous ensemble, donc on ne se quitte pas pendant tout le temps du terrain, et ça c'est quelque chose, l'air de rien, pour faire un peu la fabrique de la recherche, ça n'arrive pas si souvent que ça dans une vie de chercheur, donc ça je trouve que c'était important de le préciser. Et puis je trouve qu'on apprend en plus à découvrir aussi des ressources que les unes et les autres on a, que parfois, ben, quand on est à des conférences ou quand on est dans nos activités de recherche un peu les uns les autres, on n'a pas l'occasion de pouvoir les appréhender. Donc là, pour moi, c'était vraiment l'occasion de faire une découverte assez stimulante et nouvelle pour chacune et chacun d'entre nous. Donc voilà, ça, c'est un point qui me paraît vraiment, vraiment essentiel.
Gina Auto, est-ce que tu peux nous dire un mot sur cette question de la participation des habitants-habitantes au sein d'une recherche ? Est-ce que c'est quelque chose que toi, tu peux mettre en place dans tes recherches personnelles au Brésil, à Bahia ?
Oui, tout à fait. Mais tout d'abord, je dois remercier l'opportunité de faire partie de ce groupe magnifique des chercheuses, des chercheurs. C'est une opportunité, c'est même un privilège d'avoir un espace d'apprentissage si riche et surtout d'avoir une expérience vécue qui est vraiment assez importante pour nous tous. Et oui, je viens d'une tradition au Brésil en tant que chercheur en économie solidaire d'avoir un peu appris un peu, appris avec la tradition de ce qu'on appelle l'éducation populaire chez nous. Et l'éducation populaire suppose ce rapport de réciprocité avec les gens dans un travail qui va beaucoup au-delà de la recherche. C'est-à-dire, en économie solidaire, on développe beaucoup d'actions de co-construction avec les habitants sur leur territoire, des possibilités de trouver des solutions, des innovations sociales, enfin, des modes d'agir qui pensent autrement la résolution de leurs problèmes dans une perspective qu'on pourrait, oui, bien dire comme une transition sociale et écologique aujourd'hui. Donc on vient un peu dans cette démarche, dans cette mouvance-là, quoi. Et ici, c'est l'opportunité de voir comment ça peut, ce genre d'approche peut aussi être développé ici. Donc c'est pour moi un spécial, c'est vraiment une grande opportunité de pouvoir vivre une autre réalité, expérimenter un peu cette expérience, cette approche dans une autre réalité. Et donc, c'est avant tout une question de posture. C'est une posture que nous avons par rapport à l'autre, tout en affirmant le principe de l'autorité. Et c'est aussi une posture entre nous, chercheurs, qui vivons, comme bien l'a dit mes collègues. Donc, nous vivons une expérience comme espèce de collective de chercheurs qui réfléchissent ensemble. Et c'est assez impressionnant, les possibilités qui s'ouvrent quand on se dispose à travailler ensemble. Et c'est vraiment, c'est un apprentissage, mais vraiment d'une ampleur assez impressionnante. Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire juste un peu plus sur, dans des projets que tu fais au Brésil, comment vous intégrez les gens? C'est aussi pour faire la transition avec des ateliers qu'on va mettre en place cette semaine, qu'on va peut-être développer un peu après, et pour mettre en perspective aussi, voilà, comment ça peut se faire chez...
En fait, nous, à l'Université fédérale de Bahia, il y a l'école de gestion, là, parce que la gestion, pour nous, c'est aussi la possibilité de penser autrement le développement d'un territoire, avec les acteurs, leurs institutions, leurs initiatives, etc. Donc pour nous, c'est avant tout cette possibilité de ne pas dissocier ce qui est de l'ordre de la recherche et ce qui est de l'ordre de l'intervention qu'on appelle là-bas extension, en fait. L'extension, en rigueur, à l'université publique brésilienne, c'est le mode comme l'université va se communiquer avec la société. Quels dialogues peuvent être beaucoup plus, disons, importantes en termes d'écoute, quoi. Parce qu'assez souvent, l'université parle, la société ne comprend pas, quoi, ou à l'inverse. Enfin, donc, comment on arrive à en effet construire un dialogue entre université et société? Donc, chez notre demande, ce n'est pas possible de séparer les deux choses. Donc, nous travaillons à partir, avant tout, des demandes des habitants, et on essaye de construire des solutions conjointes, ensemble, en fait. Donc, on a beaucoup d'outils tournés vers la coproduction, la co-construction des solutions locales. Et à partir de ces demandes, on génère des champs de recherche, on génère des lignes de recherche, on génère des demandes de recherche en rigueur. Donc, on couple recherche et intervention à la fois tout le temps. Et c'est bien de pouvoir avancer dans cette démarche parce qu'on sent bien la profonde utilité sociale de la recherche qu'on fait, quoi. Et c'est intéressant comment ça permet aussi de penser autrement, non seulement notre rôle en tant que chercheur, mais aussi les potentialités qui résident, qui habitent chez chacune, chez chacun au territoire, chez chaque citoyen, quoi. En fait, c'est intéressant de voir comment ça génère des apprentissages à plusieurs niveaux, à plusieurs échelles, enfin.
Ben ouais, c'est hyper intéressant. Enfin, moi, ce que je trouve intéressant de là, ce que tu dis et de cette équipe, c'est que vous faites pas mal de liens entre les institutions, les habitants, justement, différentes échelles d'organisations humaines et locales ici. Donc, ça fait un peu le lien avec ma question d'après. C'est notamment les ateliers, les échanges qui vont avoir lieu ces trois prochains jours. Il y a autant des choses à échelle institutionnelle, d'échanges avec notamment le parc Supagro, entre autres. Peut-être la volonté de faire aussi avec des institutions politiques locales, mais aussi des ateliers très à échelle humaine. L'atelier en piste est choisi notamment, le café débat qui va être vraiment... d'échange de personne à personne. Et du coup, ça me pose la question un peu de comment intégrer les gens dans cette recherche. Ça passe par quoi précisément, qu'est-ce qu'on met en place les prochains jours pour le faire?
Bon, on se partage la réponse. Je trouve que on a été une des caractéristiques aussi de notre collectif qu'on constitue, et en écho aussi beaucoup avec ce que les gens ont pu nous rapporter, c'était dans les réponses qu'on posait. Hein, c'est quoi la vie bonne? Moi, je trouve qu'il y a beaucoup eu, c'est beau. Enfin, on a beaucoup parlé de la beauté du territoire, de la beauté de l'horizon qu'on peut observer au loin, et du coup un peu dans cette prolongement de cette sensibilité et ce souci esthétique aussi, on a eu l'idée de pouvoir travailler à d'autres supports, d'autres outils en fait qui puissent permettre de rendre accessible en fait cette pensée et nos interprétations collectives en fait aux habitants et de la manière la plus démocratique possible. Et donc pour ça, évidemment, il y a beaucoup de choses qui existent, hein, aujourd'hui. La recherche est heureusement non plus enfermée dans une bibliothèque, confinée à des espaces privilégiés. Mais malgré tout, voilà, on a repris des outils qu'on a l'habitude. C'est une caractéristique de notre équipe d'avoir l'habitude de travailler aussi avec, notamment, je pense, dans la formation pour adultes, donc avec des outils pour des personnes qui sont déjà en activité professionnelle. Et avec qui on a aussi un rapport dans la transmission des savoirs qui est encore plus attaché à travailler l'horizontalité, c'est-à-dire faire avec les savoirs des personnes qui sont avec vous dans un même espace pour réfléchir à une problématique partagée. Et donc pour ça, Roxane en parlera peut-être aussi d'un ou deux outils qu'on avait envie d'utiliser, mais en tout cas, de mon côté, ça a été aussi l'occasion d'expérimenter un outil qui m'avait beaucoup impressionnée quand j'avais rencontré un sociologue qui a beaucoup travaillé avec l'outil du roman photo, qui est un outil, alors un peu dans la mode actuelle, hein, où beaucoup de recherches maintenant sont traduites sous des formes de format BD ou de roman graphique. Donc moi, je ne sais pas dessiner, donc c'est pas l'outil que j'ai privilégié, mais par contre, j'aime beaucoup photographié, et ça a été une expérience possible parce qu'on a pu beaucoup photographier nos entretiens, les temps d'enquête, et m'est venue assez spontanément l'idée d'expérimenter cet outil. Alors on verra justement dans les différents temps de restitution si cet outil fait écho ou pas, s'il y a des résonances avec les habitants à qui on le présentera, mais notamment pour présenter notre méthodologie, ça me semblait être un bon outil pour pouvoir nous montrer comment on s'est inscrit sur le territoire avec les personnes qu'on a rencontrées, et puis avec des images un peu sur un ton un peu décalé pour continuer notre décentrement avec des réflexions que le vivant aurait pu avoir sur notre pratique de chercheur. Donc c'était un peu dans cette optique-là que j'ai construit ces planches. Donc celles et ceux qui pourront venir donc demain matin au marché ou plus tard dans nos itinérances, on pourra voir ces planches. Et puis on a eu aussi le souci de proposer à des artistes ici locales, donc Salomé qui signe Salome a fait, peut-être vous l'avez vu sur le territoire, la très très belle affiche de notre on en est hyper fiers très belle affiche de cette restitution avec elle aussi, elle serait beaucoup mieux l'expliquer que nous, mais en tout cas, elle a engagé aussi sa réflexion sur c'est quoi la vie bonne pour elle à travers les échanges qu'on a pu avoir ensemble. Et puis, on a aussi fait appel, et ça, on le verra dans la restitution qu'on proposera au marché et dans l'itinérance notamment, à une autre artiste, peut-être qu'elle se désigne plus comme une facilitatrice, Clara, qui signe Territoire Graphique, qui, là aussi, c'était un exercice, on verra comment ça fonctionne, mais l'idée, c'était aussi de pouvoir travailler avec elle pour qu'elle rende compte aussi des données, des résultats qu'on a pu, des réflexions qu'on a pu avoir collectivement, et de on a dû faire des choix, les répartir selon des grandes thématiques que Isabelle et Blandine ont présentées tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, l'idée, c'était s'attacher à essayer de diversifier les outils pour rendre cette recherche la plus attractive, j'ai envie de dire, la plus ludique, la plus accessible aussi possible voilà, à travers ces outils-là. Tu veux compléter peut-être ?
Oui, je peux dire un petit mot sur le format du Café Débat. Donc c'est toujours dans cette optique de pouvoir à la fois restituer l'ensemble de nos analyses, mais en fait de créer un espace de discussion. L'idée, c'est vraiment de ce qu'on appelle dans l'animation, d'avoir la relation la plus horizontale possible en fait entre les chercheuses chercheurs et les citoyens citoyennes qui vont venir pendant ces ateliers, et de pouvoir aussi continuer notre co-construction des savoirs, notre co-construction des analyses. Donc comme l'a dit Magali, il y aura plusieurs supports visuels, et donc on est très impatients de savoir est-ce qu'on arrive à retranscrire notre pensée et nos analyses par ces supports visuels, et pour faire un peu de teaser et donner envie de venir à ce café débat. L'idée, c'est d'avoir un déroulé dans lequel vous allez pouvoir vous retrouver à une table, discuter directement avec les chercheurs du projet sur les différentes thématiques, aller peut-être un petit peu plus dans le détail par rapport à ce que Isabelle Blandy-24 ont partagé juste avant, mais surtout en fait de pouvoir réagir, amender, débattre, discuter en fait ces éléments-là, et de susciter en fait des questions et d'avoir vraiment cet espace d'échange et de travailler comme ça sur l'ensemble des quatre thématiques, et d'avoir aussi un temps collectif à la fin de ce café débat où tout le monde va pouvoir avoir accès à l'ensemble des productions et discussions qui aura été faites tout au long de l'atelier. Donc c'est aussi pouvoir avoir un regard sur les voisins, citoyens, citoyennes, de où est-ce qu'ils se positionnent en fait dans cette analyse, quelles sont les pensées qui circulent au sein de mon territoire, quelles sont les opinions, les arguments, et de pouvoir avoir aussi un espace de discussion citoyen. Enfin, l'idée, c'est pas simplement de dire la discussion avec les chercheurs, chercheuses, mais il va y avoir aussi cet espace de discussion entre citoyens, citoyennes sur les questions qui seront sorties pendant le débat.
Avant, juste la question suivante. Est-ce que l'idée, c'est aussi de ressortir des problématiques communes, potentielles, un peu inhérentes au territoire, aussi dans une potentielle suite, et ça fait la suite.
Et oui, ça fait le lien avec ma prochaine question qui était pour toi, Gena Otto, parce que donc toi, tu mènes des formes de recherche-action, en fait, c'est ça, sur ton terrain. Est-ce que donc c'est des recherches qui partent des problématiques qui sont soulevées par les habitants, qui sont liées aussi à des réalités sociales concrètes. Est-ce que tu penses que ça peut générer, que ce soit au niveau local ou plus global, un changement social au niveau des populations qui sont impliquées dans ces formes de recherche?
Oui, tout à fait. En effet, on peut penser ça à deux niveaux. D'un côté, c'est la manière, la façon dont, dans une recherche comme celle-là, on intègre ces trois dimensions de la temporalité, le passé, le présent et l'avenir. Donc, c'est vrai qu'une recherche, elle est basée sur une compréhension de l'histoire et des processus passés vécus dans un territoire donné. Et ça débouche sur des situations qu'on vit au présent, soit. Donc on regarde l'histoire, on regarde le passé pour mieux comprendre notre présent. Mais à la fois, susciter des possibilités de changement, ça veut dire penser à l'avenir. Donc une recherche comme celle-là intègre d'une certaine manière ces trois dimensions. La dimension de l'avenir, c'est justement les possibilités qui s'ouvrent à partir de cette analyse du passé, à partir de cette problématisation du présent. Comment on peut ensemble penser à des chemins, des possibilités. Assez souvent, chez nous, on parle en termes de construction des politiques publiques ou construction des solutions locales à partir des initiatives d'habitants. Et comment cela peut être fait, non seulement à partir de la capacité endogène du territoire, c'est-à-dire la capacité d'action des habitants eux-mêmes, mais à partir des nouveaux genres, des partenariats, des rapports institutionnels qui se produisent au territoire. Donc ça, c'est c'est quelque chose d'assez assez important. Donc on regarde une recherche comme celle-là en pensant aussi son avenir. Donc l'avenir, c'est justement cette force collective qu'on serait capable de le produire, intégrant justement ces différentes modes de participer à une recherche, soit en tant que chercheur, mais en tant qu'habitant, citoyen, soit en tant que représentant public, gestionnaire public, soit en tant que militant associatif ou même habitant. Enfin, voilà comment on est capable ensemble de produire un projet collectif qui puisse avoir des suites importantes, quoi. Enfin.
Mm-hmm. Oui, un impact et potentiellement un impact positif aussi.
Oui,
sur.
Oui, voilà.
Ben justement, pour mettre un peu en perspective ces questions donc, de création de liens avec les habitants, habitantes, de leur participation et de générer un peu un savoir commun, des problématiques communes et peut-être de réfléchir du coup à ce que peut générer une telle recherche aussi comme proposition de solution, de réflexion. On est notamment allé à la rencontre du collectif Mémoire pour Demain, qui mène des recherches depuis plusieurs années sur le territoire, sur les savoir-faire locaux et la vie sociale et culturelle. C'est un collectif, il se nomme comme collectif d'intérêt, qui est né en 2014 à Saint-Laurent-de-Trèves et qui est maintenant porté par le foyer rural d'Espagnac. Et il et elle réfléchissent aujourd'hui à monter une structure pour développer leurs activités un peu plus largement sur le territoire sud-Lozère et être moins affiliés à des petites régions. Vous connaissez peut-être leurs travaux, on vous renvoie aux émissions qui ont été réalisées par radio, à Radio Bartas, à retrouver sur le site de la radio. Vous tapez Mémoire pour Demain. Et la particularité de leur démarche à Mémoire pour Demain, c'est que c'est des habitants et habitantes d'ici qui font des recherches et qui trouvent dans les sciences sociales des outils pour réaliser leurs recherches. Donc c'est des recherches qui se veulent être un peu au service de la vie locale pour récolter des savoirs anciens et actuels, un peu réactualiser aussi des savoirs anciens et les lier à des pratiques actuelles du coup, et créer des dynamiques pour faire du lien et générer voilà, un savoir commun pour et par les gens d'ici.
Et donc on les a interrogés sur leur activité de recherche. On a notamment enregistré Marine, qui fait partie du projet depuis 3 ans, donc depuis que Mémoire pour Demain est soutenue par le foyer rural des Petits Cailloux à Quézac. Et donc elle a entendu parler, elle a intégré le projet en entendant parler d'enquêtes ethnographiques qui se faisaient notamment sur les cueillettes sauvages et les champignons. Et donc ça l'a interpellée, ça a fait écho à ses études qu'elle avait fait en sciences sociales il y a 20 ans. Et donc on va maintenant l'écouter, voilà.
Ensemble.
Bonjour Marine, tu es membre du projet Mémoire pour Demain. Est-ce que tu peux nous résumer un peu les objectifs du collectif et les méthodes que vous utilisez ?
Bon, nous, ce qui nous plaît, c'est la rencontre. Donc, on va vraiment à la rencontre des habitants et habitantes et on essaye vraiment de collecter leur mémoire. C'est vrai qu'on va vraiment voir les anciens. Je dis ça aussi parce qu'on a eu des financements par la CFPPA, qui est un organisme qui fait des actions pour la prévention de la perte d'autonomie. Donc on est vraiment allé vers ce genre de public. Et aussi parce que on a envie d'aller recueillir un peu tous ces trésors avec tous ces gens aussi qui disparaissent au fur et à mesure. Et du coup, l'objectif, c'est vraiment de collecter des savoirs, des savoir-faire. Et puis, c'est aussi tout simplement s'intéresser à plein de gens qui en fait, chaque personne a tout un tas de connaissances sur divers sujets. Et c'est aussi pouvoir les mettre en valeur, les restituer aux autres habitants, etc. Et les méthodes pour le faire, même si on a tous des parcours très différents et qu'on utilise tous des méthodes différentes. Notre outil principal, notre source principale, c'est vraiment les entretiens. Donc on va vraiment sur place s'entretenir avec les habitants en enregistrant et en retapant ces enregistrements après sur ordinateur. Et après, on fait aussi des recherches aux archives, des recherches bibliographiques.
Votre collectif s'appelle Mémoire pour Demain. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu le sens que ça a et pourquoi vous avez choisi de mettre en avant cette question de la mémoire ? Pourquoi c'est important de créer de la mémoire au sein d'un territoire ?
Et pourquoi pour demain?
Eh bah, bien, ce nom est arrivé bien avant moi. Mais Mémoire pour demain, vraiment, ça fait sens. Nous, à chaque fois qu'on va sur le terrain, ça fait que valider ce truc-là. C'est-à-dire que vraiment, chaque personne d'un territoire en a une connaissance propre et particulière. Et c'est vraiment intéressant de pouvoir le mettre en commun et le collecter. Et que ça serve surtout de le diffuser, que ça serve aux autres habitants. Et par exemple, on va sortir le mois prochain un petit livret là, d'une cinquantaine de pages. Je trouve que dans chacune des thématiques, c'est pas du tout une espèce de photographie du passé, quoi, comme ça, un peu, qui dirait c'était mieux avant, ou c'était moins bien, ou qui montre des photos en noir et blanc, etc. Enfin, il y a vraiment... on l'inscrit vraiment dans une dynamique. Et en fait, ça intéresse vraiment toutes sortes de gens de tous âges, quoi, de pouvoir lire ses mémoires, les écouter. Et puis... Par exemple, on a aussi fait, à Hispania, cette problématique du foncier, que c'est plein de mini-parcellaires partout et que pour pouvoir avoir accès à du foncier, c'est un peu embêtant d'avoir affaire à 50 propriétaires différents pour pouvoir planter. Donc du coup, ils ont créé cette association foncière agricole, l'AFA, qui regroupe tous les propriétaires ensemble. Et c'est cette association de propriétaires qui va faire un bail aux agriculteurs. Et ça, c'est vraiment super, quoi. Et du coup, il y a deux ans, ils ont redynamisé un peu cet assaut. Et ils ont fait une soirée à Hispaniac pour en parler aux habitants. Et c'était chouette de pouvoir, du coup, diffuser. Nous, on avait un peu diffusé des enquêtes des anciens. Il y avait aussi les anciens qui venaient. Il y avait une carte affichée. Et puis les anciens montraient les parcelles. Il y avait un petit viseur là, rouge. Et puis disaient, là, il y avait ci, là, il y avait ça. Ah, mais ici, on faisait des lentilles, etc. Et il y avait aussi, du coup, plein de jeunes qui potentiellement voulaient s'installer. Enfin, tu sentais qu'il y avait un vrai partage et une vraie utilité à ce genre de choses. Ça, c'est vraiment un exemple, mais voilà, il y en a plein.
Qu'est-ce que tu trouves riche là-dedans?
Par exemple, j'avais fait aussi des portraits sur 8 doyennes à Hispania, que là, qui étaient la mairie avait envie de mettre à l'honneur un peu ces habitantes anciennes. Et du coup, j'avais rencontré ces femmes-là. Et après, on avait fait une soirée de restitution à la mairie où ils avaient organisé un petit apéro et tout. Et il y avait beaucoup des femmes que j'avais interrogées qui étaient présentes et qui avaient très, très peur, qui étaient très stressées par l'écoute de leur portrait comme ça, par d'autres habitants, etc. Et du coup, j'avais vraiment fait en sorte de restituer au mieux ce qu'elles avaient dit. Et en fait, elles avaient été ravies de s'entendre, ravies de voir les réactions du public, parce que des fois, il y avait des choses un peu drôles. Donc le public riait, des fois, il y avait des choses touchantes. On sentait que, voilà, il y avait quand même de l'émotion dans la salle. Et après, pendant l'apéro, il y avait plein de gens qui allaient les voir, qui leur ont fait plein de retours. Et on sentait que ça avait vraiment fonctionné, cette chose d'apporter un autre regard sur ces personnes et que les habitants les découvraient différemment. C'était plus du tout la vieille dame du bout de la rue, mais que ça avait changé leur regard. Et c'est vrai que des petites choses comme ça, où il y a aussi une personne que j'ai interrogée qui je lui avais justement parlé de la FA il y a 20 ans et elle m'avait dit à l'époque moi j'ai une super parcelle et à l'époque on était venu me chercher il y a 20 ans et moi j'avais pas bien compris ce que c'était ce projet et aussi peut-être elle y croyait pas trop parce que c'était un peu incongru de réinstaller des vignerons etc. Et puis du coup après avec l'histoire elle a vu que ça avait marché et que plein de gens avaient loué leur terrain à la FA et du coup quand je suis allée la questionner, là, elle m'a dit « tu pourras dire à la fac que s'ils veulent, moi, j'ai toujours cette parcelle et que du coup, je veux bien la louer. » Donc voilà, c'est des petites choses comme ça qui sont très riches et qui font vraiment sens. Ouais.
Nous, notre travail, il concerne la recherche d'un bien vivre dans les Cévennes, d'une vie bonne, comme on dit, d'une vie choisie et non subie. tu as l'impression que c'est des thématiques qui peuvent rentrer en résonance avec ce que vous, vous observez, vous étudiez ?
La vie bonne. C'est vrai que là, quand tu dis ça, je pense tout de suite à beaucoup des personnes anciennes qu'on interroge. Tu sens vraiment le... Ouais, alors dans le temps, c'était vraiment rude. La vie était vraiment dure et on ne reviendrait pas en arrière parce que vraiment, ça a été très difficile. Voir enfin, vraiment des choses qui te racontent, tout, c'était vraiment très dur. Et en même temps, toujours lié, enfin ça je pense on le retrouve souvent, mais avec une grande nostalgie d'avant, où en fait c'était vraiment une vie bonne aussi, simple, qui était beaucoup plus sensée. Enfin, il y a un peu ce mélange-là qui se fait souvent dans les récits. Après, nous, le projet Mémoire pour demain, on a vraiment envie de l'agrandir. Enfin, on aimerait en faire une association et intégrer plus de membres. Et ça laisserait aussi justement la place à encore plus de thématiques et plus de publics et interroger, tu vois, pas forcément que les anciens. Enfin, la mémoire, c'est les anciens, mais c'est pas que ça non plus.
Tu peux peut-être juste nous dire un peu plus... Précisément, c'est quoi ces financements ? C'est qui et en quoi vous répondez un peu à,
ouais.
à cet organisme ?
Oui. Donc, la CFPPA, là, dont je parlais tout à l'heure, c'est donc la Conférence des financeurs pour la prévention de la perte d'autonomie. C'est le département, en fait. Enfin, c'est des sous du département, en fait. Les deux dernières années aussi, c'est grâce à leurs subventions, en fait, qu'on a pu fonctionner autant. Et eux, c'est vraiment leur axe, c'est vraiment de favoriser le maintien des personnes âgées à domicile. Mais aussi, ils avaient élargi le public et on pouvait aussi aller en EHPAD. Donc, on avait aussi été à l'EHPAD d'Ispagnac. Et du coup, c'est vraiment aller dans le sens d'améliorer la vie des personnes âgées. C'est aussi vraiment important pour nous, en fait, d'être reconnus comme pouvant agir positivement sur la vie de ces personnes en allant juste discuter avec eux, réveiller des choses et puis les valoriser, quoi, montrer que c'est important. Et puis, ouais...
Merci Marine d'avoir répondu à nos questions et à une prochaine.
Merci, à une prochaine.